crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons ensemble les célèbres Nymphéas, cette œuvre immense de Claude Monet que l'on peut admirer au musée de l'Orangerie. Ce décor mural, cet environnement avant la lettre, mobilise toute l'énergie de l'artiste à partir de 1914. Il prend sa forme définitive dans le dispositif spatial de l'Orangerie, une frise panoramique se déployant presque sans rupture et enveloppant le spectateur. Ami très proche de Monet, Georges Clemenceau, le tigre, l'homme politique, le chef d'État, le père La Victoire, est aussi un amateur d'art, et collectionneur d'ailleurs, éclairé. À partir de 1864, année de sa rencontre avec Monet, il n'aura de cesse de le soutenir, comme il soutint également Rodin dans son aventure du Balzac. Monet et Clemenceau entretinrent une correspondance régulière, et Clemenceau rendait aussi de nombreuses visites à Monet dans son jardin, dans sa propriété de Giverny. C'est lui qui encouragea le peintre à finir le grand ensemble mural des Nymphéas. En 1928, après la mort de Monet, il lui rendra hommage au travers d'une grande monographie qu'il lui consacre, hommage personnel, hommage d'amitié, mais aussi hommage à l'artiste qui lui avait procuré tant de joies esthétiques et au novateur dont l'exemple lui semblait devoir être conservé, Georges Clemenceau, donc notre regardeur.
Un jour, je disais à Monet, c'est humiliant pour moi. Nous ne voyons pas du tout les choses de la même façon. J'ouvre les yeux et je vois des formes, des nuances de coloration que je tiens jusqu'à preuve du contraire pour l'aspect passager des choses comme elles sont. Mon œil s'arrête à la surface réfléchissante et ne va pas plus loin. Avec vous, c'est une autre affaire. L'acier de votre rayon visuel brise l'écorce des apparences et vous pénétrez la substance profonde pour la décomposer en des véhicules de lumière que vous recomposez du pinceau afin de rétablir subtilement, au plus près de sa vigueur, sur nos surfaces rétiniennes, l'effet des sensations.
Pour parler de ce chef-d'œuvre de Claude Monet, je reçois aujourd'hui l'artiste Bruno Maton. Bonjour Bruno.
Bonjour Jean.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes un merveilleux peintre, un peintre érudit, mais vous êtes aussi un très grand dessinateur, poète. Vous procédez dans vos dessins avec une sorte d'inspiration japonaise qui d'ailleurs peut-être vous est commune pour d'autres raisons avec Monet, et vous soulevez avec une grande délicatesse votre pinceau ou votre plume, parfois. Vous ajoutez par moments certains collages dans vos peintures, et vous avez dans vos autres représentations, dans vos autres techniques, un travail très étrange de peinture qui se donne la sensation d'être un réalisme magique, une sorte de monde figé où des espaces intérieurs nous conduisent dans une vie intérieure. C'est le cas également de Monet. J'ai la chance de recevoir également Laurence Descartes. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Jean.
Vous êtes conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de l'Orangerie, bien connue pour tous vos travaux sur les nabis par exemple. Vous étiez auparavant conservatrice au musée d'Orsay.
Absolument.
Directrice scientifique de France Muséum, grande aventure. Mmh. Et vous préparez en ce moment une exposition sur le Marquis de Sade, qui a un nom magnifique. Qu'est-ce que c'est ?
Attaquer le soleil, beau projet.
Beau si projet. Ça, et au milieu d'une discussion, d'une polémique qui commence et
Absolument.
Qui va être passionnante à suivre.
Ce sera sans doute une exposition polémique, mais c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Fidèle à l'esprit de Sade, donc c'est très bien.
Et vous avez pu réunir beaucoup d'œuvres autour d'œuvres, de Sade.
Ce sera une relecture de l'histoire de la modernité des 19e et 20e siècles à travers le prisme sadien, l'influence souterraine de Sade sur les artistes.
Voilà. Sur Monet, c'est moins sûr.
Sur Monet, c'est moins sûr, effectivement.
Parce que c'est une paix méditative que ressent le visiteur confronté aux deux immenses ellipses qui l'entourent lorsqu'il contemple au musée de l'Orangerie les extraordinaires nymphéas réalisées par Claude Monet entre 1914 et sa mort en 1926. La puissante expérience synesthésiste vient à lui dans la clarté pâle diffusée par les deux puits de lumière zénitale et là, entouré par la scansion des grandes nappes de couleurs, impressionné par les combinaisons, les contrastes, les perspectives inversées, des reflets, des arbres mêlés aux herbes penchées sur l'eau et aux nuages dont l'image glisse sur ce vaste miroir, le visiteur, immergé dans le bleu de Prusse, l'outre-mer, les verts carmin et roses des plantes et le bleu et blanc du ciel, vit à part une vision perturbée, proche de l'hallucination, sa compréhension spatiale, sa perception du temps, à la fois fixée par la stabilité des arbres et mobilisée par l'agitation tremblée de la touche ou les variations de la lumière aux différentes heures du jour, donne accès à une onde sans horizon et sans rivage, ainsi que le dit Monet. À la question « Monet sait-il au juste à quoi il s'engage lorsqu'il entreprend à l'hiver 1893 d'aménager un jardin d'eau au bout de sa propriété de Giverny ?» On pourrait répondre non. Il ne présume pas encore l'intérêt de ce jardin pour son propre travail et de fait, de 93 à 97, il ne fera que 3 vues de ce paradis commencé. Il ne sait pas qu'il parvient une fois encore à une innovation totale, une œuvre globale qui prend la forme sans doute d'un premier chef-d'œuvre qui sera le jardin, en lui-même une extraordinaire leçon d'art topiaire. Une deuxième innovation sont ces 300 toiles, sans compter les innombrables qu'il détruisit, ces peintures qui vont influencer une grande partie de l'abstraction lyrique du XXe siècle. Il en retire peut-être une troisième innovation qui est ce panorama de l'âme, cette installation immersive qui annonce les grandes œuvres lumineuses, immatérielles, de James Turrell par exemple. Innovation, mais d'impression du soleil levant en 1872 à l'atelier flottant qu'il fit bâtir pour Argenteuil, de l'invention de la notion de série avec les meules, les peupliers, les cathédrales, il ne cesse d'inventer, souvent obsédé par le génie de l'eau, perçu sous toutes ses formes, les vapeurs des trains de la gare Saint-Lazare, les glaçons des débâcles de la Seine, les brouillards de Londres, les reflets de Venise, l'eau d'Argenteuil jusqu'aux eaux endormies de Giverny. Alors, Bruno Maton, je voulais vous interroger sur cet incroyable innovateur qui pourtant semble être tellement en dehors des innovations de son époque. Il est contemporain, on l'oublie parfois parce qu'on voit en lui l'impressionnisme, mais il est contemporain des ready-made de Marcel Duchamp, des Demoiselles d'Avignon, de Malevitch, de tous cette grande avant-garde incroyable qui bouleverse le ciel, qui crée de nouvelles perspectives. Est-ce que vous le ressentez vous-même aussi comme un innovateur dans cette période, à la fin de sa vie, où entre 14 et 23, il réalise les nymphéas?
C'est difficile de répondre à cette question parce que l'œuvre reste quand même relativement mystérieuse. Je peux expliquer comment je la ressens. Et je crois d'abord que c'est l'aboutissement de quelque chose. L'ensemble des nymphéas est, comme vous l'avez dit là à l'instant, est énorme. Il y a environ 300 tableaux, plus les deux salles de l'Orangerie. Et il ne faut pas oublier le processus qui habite la peinture de Monet. La première chose, on dit toujours « Ah oui, Monet, à l'origine, c'est la lumière, la lumière, la lumière. » Oui, mais derrière la lumière, il y a la conquête d'autres choses. Parce que si vous regardez bien, par exemple, la femme à l'ombrelle, celle qui est debout, là, un peu, comme on dit au cinéma, en contre-plongée. Si vous la regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? On a l'impression, la lumière vibre, bien sûr, mais on a le sentiment de l'existence même de l'air. C'est-à-dire que ces tableaux, à un moment, et ça a été pour moi une révélation quand j'étais enfant, on avait mis une reproduction dans la maison de famille d'une des régates d'Argenteuil, avec cette voile rouge, qui est un tableau qui m'a illuminé quand j'étais enfant, parce que je voyais très très bien ce qu'il voulait faire. Je sentais le vent sur la rivière. Je sentais la présence de l'air dans ce tableau, alors qu'il n'y a que des taches de couleur. Et il y a eu cette conquête de l'air en premier. Ensuite, peu à peu, il y a une autre conquête, c'est celle de l'eau, et qui aboutit à la création de ce jardin. Alors ce jardin, je pense que vous avez tout à fait raison quand vous avez dit que peut-être il a fait un jardin comme ça pour lui, pour son plaisir, pour avoir un jardin dans sa maison. Et puis peu à peu, il a acheté un morceau en plus, il y avait une rivière dedans, etc., etc., des nymphéas, des machins, et le jardin est devenu gigantesque, et c'est devenu, comme vous l'avez dit très justement, une œuvre d'art lui-même. Il a fabriqué quoi ? Le modèle. Il a fait du modèle. Une œuvre d'art lui-même. Alors ça, c'est déjà quand même d'une originalité extraordinaire pour un homme du 19e siècle.
Mais il le dit, d'ailleurs, Laurent Zécart, un moment. Oui. Il le dit quand il parle du projet de jardin, quand il rachète la parcelle qui va être le fameux jardin japonais en 93, dans une lettre, il dit « Et ce sera un lieu de plaisir et un bonheur, si je puis dire, de jardinier, mais ce sera aussi une source de motifs. » Et ça, c'est passionnant parce que c'est la nature maîtrisée par l'artiste et qui devient source de motifs. C'est-à-dire qu'il crée lui-même le motif. Et c'est quand même assez fascinant.
C'est une innovation très forte.
Absolument, hein. Absolument passionnant.
Il y a d'abord, justement, pour continuer ce que vous dites,
Bruno Maton.
Il y a une première intervention. On est debout. Et le tableau, c'est l'homme debout qui regarde la surface de l'eau. Bon, OK. Tout y est. Les nymphéas, le reflet, etc. etc.
Là, vous parlez du tableau à l'orangerie.
Non, là, je ne parle pas de l'orangerie. Hein. Je vais y venir, parce que l'orangerie, c'est d'une nature différente, justement. C'est l'aboutissement de ces tableaux qu'il a faits avec les nymphéas. Bon. Et la première chose, c'est immobile. Et tout d'un coup, les tableaux se mettent en marche et vous avez le sentiment que vous glissez sur l'eau. C'est-à-dire, il y a, deuxième plan, la barque. La barque qui glisse sur l'eau. Et à un moment, allez à Marmotton, vous la verrez, la barque, il l'abandonne. Il l'abandonne pourquoi ? Il la peint. Elle est magnifique. C'est un grand tableau avec une barque, avec des herbes très folles tout autour. L'ensemble est assez sombre, d'une très grande beauté, d'une très grande profondeur. Et on sent très bien qu'on a quitté la barque. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Alors commence le voyage du regard lui-même. Et l'aboutissement extraordinaire de l'orangerie, de l'ensemble de l'orangerie, c'est qu'il n'y a plus que le regard. Comme si le regard se détachait totalement du corps et voyageait au-dessus de l'eau. C'est une libération du regard. Et c'est pour ça que cette œuvre est unique au monde et extraordinaire.
Laurence Descartes, dites-nous, lorsque Claude Monet va créer ce jardin, ses premières démarches, ses premières peintures, vers 1897 à peu près, ou 14,
oui.
Il n'a pas encore l'idée d'un projet d'ensemble architecturé ?
Pas encore. Enfin, en 97, ça commence à apparaître. Et il y a mention dans une lettre de l'idée d'un dispositif circulaire. Très intéressant parce que ça vient du monde du panorama, en fait, du 19e siècle. C'est-à-dire un effet d'immersion et d'une forme d'illusion, d'ailleurs, au fond.
Peut-être pourriez-vous dire un mot sur ces fameux panoramas du 19e siècle, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui à quel point c'était populaire.
C'était, au fond, une forme d'attraction populaire au 19e siècle, qui a parcouru tout le 19e siècle, avec souvent des dispositifs, en fait, circulaires, d'immersion finalement du visiteur et du spectateur, littéralement du spectateur. C'est une peinture spectacle qui a souvent reconstitué par exemple des scènes de bataille ce sont souvent des artistes plutôt d'obédience académique, donc qui travaillaient une forme d'illusionnisme, en fait le rapport à la réalité extrêmement illusionniste, et au fond c'est l'ancêtre, une forme d'ancêtre du cinéma si vous voulez, et de tous les dispositifs illusionnistes d'ailleurs que le cinéma aimera travailler.
Certains personnages comme les Frères Lumière auront
participé au panorama avant de travailler. Les Frères Lumière sont dans cette articulation effectivement entre panorama et naissance du cinéma. Et au fond, Monet, qui a cette culture visuelle aussi, et c'est quand même aussi une génération d'artistes, les impressionnistes, qui est une génération qui mêle une culture savante de musée et une culture populaire. Et c'est aussi quelqu'un qui va certainement se nourrir de ces dispositifs. Donc il y a cette idée-là. Et elle va revenir constamment, et notamment dans les échanges autour de la création et de l'installation du cycle des nymphéas à l'Orangerie, juste après l'armistice, on voit que Monet va hésiter à plusieurs reprises entre un dispositif circulaire et un dispositif beaucoup plus elliptique, les fameuses deux ellipses que nous allons retrouver, qui forment d'ailleurs le sigle de l'infini, ce qui est magnifique.
Intentionnellement.
Oui, je pense, à l'évidence. Et cette forme ovale qui dilate littéralement l'espace et le temps. Et je pense aussi que vous mentionniez très justement cette quête non seulement de la lumière chez Monet, mais de l'atmosphère, enfin littéralement. Il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument rappeler, c'est cette question des séries, parce que ça, c'est quand même une révolution aussi dans l'histoire de la peinture absolument fondamentale que Monet accomplit au tournant des années 90, qui est son propre dépassement de l'impressionnisme, au fond, et de la sensation rétinienne, dans une décomposition du motif, de l'étude du motif, selon les moments du jour, de l'année. Et c'est au fond ce dispositif sériel qui est comme une espèce de cycle infini, on va le retrouver accompli à l'Orangerie. Enfin, il y a là, à mon avis, quelque chose de l'ordre de l'accomplissement absolu de la quête de Monet. Et on ne peut pas comprendre, je pense, l'affaire des nymphéas et le cycle de l'Orangerie sans les replacer aussi dans la grande question des séries, qui est une avancée absolument fondamentale, qui va hanter aussi tout le XXe siècle.
Dans cette Vous avez tout à fait raison, on va en reparler d'ailleurs.
Voilà.
Alors peut-être écoutons un extrait du livre de Georges Clemenceau, celui qu'il consacre à Monet et qui paraît en 1928, après la mort de l'artiste.
Dans le miroir de son étang, parmi les lourdes dalles du feuillage aquatique cerné des nuages, sursaute un éclat de pétales, en proreptation de la nuée, d'où surgira tour à tour la flamme des eaux ou la splendeur des apaisements célestes. C'est là que Monet venait chercher l'affinement des sensations les plus aiguës. Pendant des heures, il restait là, sans mouvement, sans voix, dans son fauteuil, fouillant de ses regards, cherchant à lire dans leurs reflets ces dessous des choses éclairées au passage, des lueurs insaisissables où se dérobent les mystères. Le dédain de la parole pour affronter le silence des fugitives harmonies. Voir n'était-ce pas comprendre? Et pour voir, rien que d'apprendre à regarder. Regarder au dehors, au dedans, regarder de toutes parts pour exalter les sensations de l'homme dans tous les frémissements de l'univers. L'eau buvait la lumière et la transposait, la sublimait au plus vif avant de la retourner aux sensibilités rétiniennes étonnées de réactions inconnues. Là gît, à proprement dire, le miracle des nymphéas qui nous présente l'ordre des choses autrement que jusqu'ici nous ne l'avons observé. Rapport nouveau, lumière nouvelle, aspect toujours changeant d'un univers qui s'ignore et cependant s'exprime en nos sensations. Nous admettre à des émotions inconnues jusque-là, n'est-ce pas obtenir de l'infini muet de nouveaux états d'assimilation? N'est-ce pas pénétrer plus avant dans le monde lui-même, dans le monde impénétrable? Voilà ce qu'a découvert Monet en regardant le ciel dans l'eau de son jardin.
Je pioche comme un enragé, mais hélas, vous avez tous beau dire, j'ai vidé mon sac et ne suis plus bon à rien. Tout part à la fois, le temps n'est pas très régulier. Hier, splendide soleil, ce matin, brouillard. L'après-midi du soleil qui s'est caché juste quand il me le fallait. Demain, ce sera du gris noir ou de l'eau. Ce soir, j'ai voulu comparer ce que j'ai fait avec les anciennes toiles. C'est horrible. Et ce que je fais cette fois est aussi mauvais, autrement mauvais, voilà tout. Il faudra ne pas vouloir faire cela vite. Essayer encore pour refaire une bonne fois. Mais je sens la lassitude venir, je suis à bout, et cela prouve que j'ai bien absolument vidé mon sac. Crébleu, il ne voit pas loin ceux qui me trouvent un maître. De belles intentions, oui, mais c'est tout. Je suis rompu, je n'en peux plus, et j'ai eu une nuit remplie de cauchemars. La cathédrale me tombait dessus. Elle semblait bleue ou rose ou jaune.
Nous entendions la voix du poète et essayiste Marcelin Plesnay lire une lettre de Claude Monet dans l'émission Une vie, une œuvre par l'émission de Stephen Katz en 1995. Bruno Maton, vous avez contemplé ces jours-ci, peut-être, pour penser à cette émission à nouveau, peut-être la centième fois, à ces extraordinaires nymphéas de Claude Monet qui se trouvent à l'Orangerie. Est-ce que cette œuvre amène encore quelque chose à un peintre d'aujourd'hui comme vous ?
Oh oui, certainement. De toute manière, on ne peut pas nier l'énorme influence que Monet a eue sur la peinture en général, et particulièrement sur la peinture américaine. Alors pourquoi pas sur la mienne ? Enfin, moi j'ai adoré dès l'enfance Monet, il m'est resté dans le cœur et il y est toujours. Et je suis retourné pour vous parler justement des nymphéas. Je suis retourné à l'Orangerie et je suis allé au musée Marmottan pour revoir aussi, parce qu'il y a de nombreux tableaux qui précèdent l'ensemble de l'Orangerie. Et c'est avec une très grande émotion que j'ai revu cette espèce de, on pourrait dire, performance extraordinaire de peinture qu'est tout l'ensemble des nymphéas, qui aboutit aux deux salles qui sont effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une sorte de grand panorama qui résume et conclut la chose. Parce que ça n'annule pas du tout tout ce qu'il a fait avant, les 300 tableaux qu'il a fait avant. Mais pour un peintre qui connaît un tant soit peu la peinture, on voit que cet artiste arrive à la peinture elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la peinture. Il n'y a plus et lui croit, comme justement Kandinsky en avait eu l'intuition, quand il avait vu à Moscou une meule de foin, en disant « Ah, mais on n'a peut-être plus besoin de sujet. La peinture suffit peut-être. »
Vous évoquez les meules, Laurence Descartes parlait des séries tout à l'heure, les meules en sont une qui ont effectivement été littéralement à l'origine de l'art abstrait.
Oui, et ce qui est fascinant, si on regarde la progression des séries, à l'intérieur des séries, si je puis dire des meules aux cathédrales par exemple, c'est évidemment la question du cadrage du motif qui est fascinant. Parce que quand vous regardez les meules, donc première série envisagée par Monet, on est encore à distance du motif. On est encore, si je puis dire, dans une forme de mise en spectacle du motif. Et plus ça va, plus Monet se rapproche en fait du motif, et on le voit déjà très très bien évidemment avec la série des cathédrales, bascule littéralement dans le motif, comme déjà un début de All Over en fait sur la toile, qui va être exactement ce qui va se passer. C'est le premier mouvement vers les nymphéas, c'est-à-dire on plonge vers le bassin japonais de Giverny et il n'y a plus de limite. Et ça, c'est fondamental.
Alors,
évidemment.
Laurence Descartes, je vous signalais cela à juste titre. Vous prenez cette expression du all-over qui caractérise une partie de la peinture américaine, une peinture qui a perdu le centre, dans lequel il n'y avait le sujet n'est plus au centre et n'est pas construit à partir d'une pyramide visuelle, etc. Donc, et la perte du centre, c'est Monet l'avait envie. Un monde sans bord, il insiste beaucoup là-dessus. Et est-ce que c'est ça une des grandes leçons de Monet pour la peinture suivante, si j'ose dire ?
Je pense que c'est une des très grandes leçons pour le XXe siècle, me semble-t-il. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que cette leçon n'a pas été entendue dans un premier temps, comme vous le savez. C'est-à-dire que les nymphéas sont installés en 1927, en fait, officiellement inaugurés en 1927, quelques mois d'ailleurs après la disparition de Monet. Et au fond, ils vont connaître une forme de purgatoire avant même d'être célébrés, à part Clémenceau, qui célèbre évidemment le talent de Monet dans ce très beau texte. Grand silence, en fait, et peu de visiteurs pendant des années. Et c'est effectivement l'expressionnisme abstrait américain de l'après-guerre qui va, au fond, réactiver la question Monet. Et alors là, on peut s'interroger, qui a vu quoi exactement ? Pollock, par exemple, n'a probablement pas vu les nymphéas, ne les connaissait que par reproduction. Mais après, on a tous les séjours d'artistes américains en Europe dans les années 40, 50, 60, jusqu'à, et j'en ai un témoignage très direct, de témoignage de Cy Twombly, que j'ai le bonheur de rencontrer. Quand Cy Twombly venait à Paris très régulièrement, il n'y avait pas une seule fois où il ne passait pas par les nymphéas de Monet.
Mais on peut penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno Maton, mais les artistes comme Sam Francis, John Mitchell, bien entendu.
Surtout John Mitchell et Roscoe.
Bien sûr.
Le plus monétien de tous, dans la mesure où vraiment, lui, il arrive à une seule forme, avec la lumière, par la couleur, exactement ce que cherchait Monet, en fait. Mais Monet cherchait aussi autre chose.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il ne rompt jamais le lien avec la nature. Il rompt en fait le lien peu à peu avec la représentation. Mmh. Et c'est
mais
là
pardon,
où il est
Bruno
précurseur.
Maton, vous avez raison de dire qu'il ne rompt pas le lien avec la nature. Il y a un phénomène géométrique très étrange dans ces nymphéas de l'orangerie. C'est-à-dire que l'inversion par le reflet et la façon dont il peut mêler parfois une herbe et la superposer au reflet fait qu'il y a un effet de vertige. Mm-hmm. Et ça, même la peinture américaine ne l'a pas obtenu, non ?
Non. Ça, effectivement. Et c'est là où Monet reste unique. Parce qu'effectivement, il y a le point de vue. D'abord, qui devient très mystérieux, dans la mesure où on ne sait pas qui regarde, ni d'où on regarde, il n'y a plus de point de vue réellement, et où c'est un regard pur, d'une part, et d'autre part, il y a les nymphéas qui sont la seule réalité, et puis les troncs, des deux jeunes arbres et des deux saules.
Il a voulu quand même cadrer avec ses troncs.
Il a voulu cadrer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le point de vue mobile
du spectateur. Il place les yeux de celui qui regarde. C'était ça, je crois, la volonté.
Il y a une question, j'ai une question à vous poser, Laurence, juste un instant là-dessus. Est-ce qu'au début, là, cette fois-ci, dans l'état qu'a souhaité Monet, la frise est interrompue par quatre portes et elle est rythmée par, à un moment donné, des buissons d'iris et à un autre moment par des pins. Il a souhaité que ça soit rompu.
Alors ça, c'est absolument le dispositif voulu par Monet, qui a d'ailleurs été magnifiquement restauré en 2006 en retrouvant la lumière, effectivement, qui était tellement nécessaire à la vision des nymphéas. C'est vraiment absolument strictement ce dispositif. Ça a été l'objet de beaucoup d'échanges.
Il a hésité
sur la forme des salles. Ça, on le sait très, très, très clairement. Il a hésité. Les échanges avec l'architecte étaient assez compliqués à cet endroit. Il y a eu d'ailleurs deux architectes qui se sont succédés aux côtés de Monet, donc ça a été une affaire compliquée.
Vous voulez dire que ce n'était pas prévu à l'orangerie à l'origine,
non,
me semble-t-il.
Non, ce n'était pas prévu. Le premier emplacement qui a été envisagé était de construire un pavillon spécial dans les jardins de l'hôtel de Biron, actuellement le musée de Rodin, qui venait de devenir le musée Rodin. Et Monet a en fait refusé, si vous voulez, les plans de l'architecte Louis Bonnier, et puis pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons propres à l'administration des Beaux-Arts, la chose ne s'est pas faite. Et c'est Clémenceau qui a suggéré l'idée de l'orangerie, qui venait de revenir dans le giron de l'administration des Beaux-Arts avec le jeu de paume à l'époque, qui était une annexe du musée du Luxembourg, donc des artistes vivants. Et voyant cet espace, et notamment sa hauteur, la qualité de la lumière, a suggéré donc à Monet de venir voir l'espace, et Monet l'a immédiatement adopté. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette affaire de la progression de la série vers les nymphéas, il y a une question capitale qui se joue pendant la guerre. Quand Monet travaille à ces fameux panneaux décoratifs qu'il va donner à la France, dans un geste magnifique, le 12 novembre 1918.
C'est-à-dire le lendemain,
de l'armistice. C'est la question de la hauteur. C'est-à-dire que Monet sort du tableau de Chevalet pendant la guerre pour envisager quelque chose qui est beaucoup plus haut et qui va donc accentuer cet effet d'immersion, en quelque sorte, du spectateur.
Est-ce qu'on peut dire que ce n'est donc plus une décoration bourgeoise comme pouvaient le faire les artistes Vuillard, Redon, dans les environnements, familiaux ?
Oui, hein, c'est clairement une œuvre de... Alors, c'est une œuvre de musée avec un lieu qui lui est dédié, une forme de lieu, et c'est intéressant parce on évoquait Rothko tout à l'heure, comment ne pas penser à la fameuse chapelle, entre guillemets, de Rothko, à la Menil Foundation, et voilà, la source, c'est ça, c'est-à-dire ce lieu de recueillement, ce lieu de méditation à l'évidence, qui est aussi une célébration de la paix pour Monet. Hein. Il faut aussi replacer ça dans le contexte
historique. Pour redire quelque chose là-dessus, corrigez-moi, Laurence Descartes, si je me trompe, mais Clémenceau va régulièrement, même pendant la guerre, alors qu'il est chef de guerre à cette époque-là, voir Monet. Il considère que c'est indispensable pour la patrie qu'il poursuive son œuvre, et il considère que c'est presque patriotique. Et le lendemain, comme pour une déclaration de paix universelle, paix cosmique cette fois-ci,
Monet fait ce geste absolument magnifique, et Clémenceau l'a saisi évidemment l'occasion de transformer cet échange qu'il a depuis des années avec Monet en un geste définitif pour la France, et un lieu de recueillement en quelque sorte, et de réflexion et de célébration de la peinture de Monet. C'est un tandem tout à fait unique, je crois, dans l'histoire à la fois des institutions et l'histoire de la peinture. Enfin, on a tellement dit combien l'administration des Beaux-Arts avait raté, n'avait pas compris la révolution de l'impressionnisme, mais là on a un très grand homme d'État qui entretient avec l'un des plus grands artistes vivants une relation de complicité et de compréhension, mais intime, de son œuvre. Les textes sont absolument magnifiques et le prouvent. Et il va pendant 7 ans, parce que l'affaire va quand même durer 7 ans, jusqu'à la mort de Monet, constamment soutenir Monet, qui a ses moments de découragement, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, qui hésite par moments, et puis qui dit j'en ai peut-être donné trop, j'en
voilà,
enlevais un peu.
Voilà, ça va pas, enfin bon, toute cette administration m'embête, etc. Et à chaque fois, Clémenceau, qui pendant ce temps-là perd la présidence du Conseil en 1920, mais continue, soutient, pousse le projet, arrange les choses pour que tout se passe bien, c'est magnifique. C'est absolument
Alors,
magnifique.
Écoutons de nouveau Clémenceau nous décrire tableau par tableau quasiment le grand ensemble des nymphéas de Monet.
À la surface des eaux, les nymphéas, portées par les puissantes palettes de leur feuillage, attendent immobiles l'accomplissement des destinées. Sujet digne des méditations, comme il n'y a ni cadre, ni commencement, ni fin, nous n'avons qu'à prendre le spectacle au moment où il se présente pour en retrouver le développement de tableau en tableau. Sachons d'abord que l'ordre des tableaux fut indiqué, voulu par Monet lui-même. Quelle pensée l'a guidé ? Voilà ce qu'il ne m'a pas dit. Je vais donc tout simplement suivre, depuis l'entrée, le cours naturel de l'inspection du visiteur. Ce jardin d'eau que nous venons chercher s'offre précisément dans le panneau que Monet a mis en vue pour le premier coup d'œil du visiteur. C'est le tableau témoin, l'exposé purement classique du sujet, où aucun effort n'est demandé du regardant qui ne soit d'une rétine moyenne à l'accoutumance des musées. Pas de limite, pas de ciel, pas de nuages, des rencontres paisibles de lumière directe avec un minimum de reflets. Mais le ciel s'obscurcit. De lourdes masses d'ombre, l'une de clair-obscur encore, envahissent la scène pour se rejoindre peut-être tout à l'heure et déchaîner la tempête. Cependant l'astre, maître encore, jette à l'inquiétude des eaux dans une trouée d'azur d'épais flocons de nuée où triomphe je ne sais quel éclair de combat, tandis que palpitant sous la menace des choses, le nymphéa blessé qui nous fait pressentir les désastres de la catastrophe prochaine. Après les suggestions de la tempête, nous découvrons aux toiles qui vont suivre les splendeurs des fêtes de la lumière en des magnificences de brasiers solaires. Il en est jusqu'à 4 d'un même thème d'éblouissement dans des compositions variées de symphonies lumineuses. Des alignements de nymphéas dans les clartés tranquilles des banderoles du saule ami qui laissent passer toutes les flèches de feu dont l'ardeur va se répandre entre le ciel et l'eau, en des reflets et des reflets de reflets, pour l'indicible extase de notre humanité éblouie. Ainsi l'art réalise à nos yeux le frémissement heureux de la pelouse liquide, de la voûte bleue, du nuage, de la fleur qui ont quelque chose à nous dire, mais ne nous le dirait pas sans Monet. Aspects éthérés du drame éternel que se joue le monde à lui-même, avec l'homme pour partenaire et spectateur.
Après cette musique de Kajia Saraiho, la finlandaise célèbre, qui s'était inspirée d'ailleurs des nymphéas pour cette œuvre intitulée Nymphéas, j'en viens à vous demander, cher Bruno Maton, lorsque on voit très nettement, vous en parliez tout à l'heure, le basculement de la tête du peintre qui tout d'un coup, au lieu d'inclure l'horizon dans son œuvre, baisse la tête et donne l'impression d'avoir une vision quasiment surplombante directement sur l'eau. Il est face à ce bouillon de nature. C'est quasiment une œuvre, comment dirais-je, c'est un microcosme absolu qu'il essaye de concevoir à ce moment-là. Qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas si on peut employer un mot comme microcosme ou macrocosme, mais j'ai plutôt eu le sentiment, en revoyant cette œuvre, que Monet voulait que le spectateur devienne une sorte d'oiseau qui vole comme ça à travers dans l'air et à travers justement ces arbres, au-dessus de cette surface comme une libellule qui comme ça volerait juste au-dessus de l'eau. Et c'est cette sensation d'approche infinie qui donne une sensation peut-être qu'on pourrait dire à caractère métaphysique, dans la mesure où ça ne finit jamais. C'est-à-dire c'est un instant éternel, dans un sens. C'est un moment, et ça, je trouve ça extraordinaire dans cette œuvre, mais c'est déjà en germe dans toutes les précédentes, c'est un mélange à l'intérieur du regard de l'instant et de la durée, qui fusionnent ensemble, et ça c'est unique dans la peinture, et ça le sera toujours. Parce que personne, je crois, n'a plus fait... il faut faire une œuvre monumentale d'abord, pour atteindre quelque chose comme ça. Alors, Thomas Mann l'a atteint aussi dans certaines de ses œuvres littéraires, mais dans la peinture, je crois que Monet est le seul à avoir envisagé le temps. Et le temps dans la peinture, c'est le temps du regard. Et comment fusionner ces deux catégories du temps, l'instant et la durée.
On est presque dans une vision bergsonienne, c'est des contemporains. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une connaissance, une ouverture d'esprit de Monet à ses recherches des philosophes, des écrivains de son époque? Il en connaissait quelques-uns?
Ça, j'en suis personnellement sûr.
Mais c'est une intuition.
Il y a à l'évidence une conjonction, j'allais dire,
intellectuelle.
Une sorte d'intellectuelle évidente. Et on a souvent rapproché l'œuvre de Bergson des Nymphéas, et je pense avec beaucoup de justesse.
Mais on aurait pu le faire de Proust aussi.
Je crois que la question du temps, du rapport au temps, qui est là aussi une des questions peut-être fondamentales du passage entre le 19e et le 20e siècle, cette course après le temps, au fond, si on regarde le 19e siècle, là aussi en prenant beaucoup de hauteur, à vol d'oiseau, on voit bien que depuis l'invention notamment par exemple de la photographie en 1839, on parlait du cinéma tout à l'heure en 95, on voit bien que la peinture est interrogée par ce rapport à la fois à la réalité et au temps, c'est-à-dire à la rapidité, à la captation de l'instantané. Et c'est bien ça qui est le geste magnifique des Nymphéas, c'est que précisément Monet dépasse l'instantané impressionniste pour aboutir à quelque chose qui est à la fois la captation du temps et son suspens parfait. Ça, c'est magnifique. Ça vient sans doute de cette notion de travail sur le cycle, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, c'est que malgré tout, il y a une construction des panneaux. L'ensemble est orienté. Et au fond, c'est un cycle du jour aussi que l'on peut suivre.
Vous dites qu'il est orienté parce que le bâtiment est est-ouest, le long de la Seine.
Et Monet a voulu qu'on ait, en principe, si vous voulez, face à l'entrée, donc dans cette course est-ouest du soleil, que l'on suive en quelque sorte cette course du soleil par les différents panneaux.
C'est-à-dire que le premier ovale est vespéral.
Absolument. Et alors que le second est crépusculaire, absolument. Et donc là, c'est toujours cette idée de boucle d'infini et de boucle qui revient dans la forme même des pièces en fait que Monet a souhaité. Et ça, c'est effectivement un moment tout à fait unique, je pense, dans l'histoire de la peinture.
Est-ce que l'on peut dire, Bruno Maton, que la déconstruction de l'espace auquel il parvient par les inversions, par cette étrange perspective de libellule dont vous parliez tout à l'heure très joliment. Est-ce que cette déconstruction de l'espace est dans un autre genre aussi stupéfiant que celui de Picasso qui, en 1907, quand même 10 ans avant quasiment, transforme notre vision également avec une compréhension du temps puisqu'on voyait simultanément plusieurs aspects d'un objet sur une même image?
Justement, je pensais, en vous écoutant, à ce grand tableau de Picasso avec une quantité folle d'objets sur une table et qui sont vus sous différents angles au même instant. Je pense que tous ces gens, ce n'est pas parce qu'il y avait une grande différence d'âge entre Picasso qui était tout jeune à cette époque et Monet qui était un vieillard, mais je crois que les gens étaient confrontés au même monde et aux mêmes problématiques. Il me semble que le traumatisme de la fin du 19e siècle dont vous parliez précédemment a touché tout le monde, tout le monde en même temps. Et Monet aussi, mais Monet a réagi à cette problématique existentielle, on peut dire, existentielle, à sa manière, dans son univers à lui, au bord de son... devant ses Nymphéas.
Et dans un geste, comme vous le disiez au début, d'accomplissement.
C'était quelque chose qui... Exactement, oui.
au fond une somme, une œuvre d'art totale aussi. Alors ça, on pourrait en parler aussi sous cet angle-là.
C'est vraiment une œuvre d'art totale.
C'est vraiment la Gesamtkunstwerk enfin réalisée. Enfin, c'est vraiment ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui hante aussi toute la fin du XIXe siècle, depuis le grand projet wagnérien.
Jusqu'à Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp. Et même cette question du décor. On a opposé tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, Monet au décor
vous
bourgeois.
Vous pouvez, n'hésitez pas à contester l'affaire.
C'est une affaire plus complexe que ça, cher Jean, dans la mesure où tous les très grands artistes de la fin du XIXe siècle se posent en fait la question du décor, du mur. C'est un retour absolument fondamental. Pensez à Gauguin, qui va être hanté par cette question décorative, oui. Mais qui n'est pas entendue au sens péjoratif, qui est précisément quelque chose qui fait partie de cette remise en question de la hiérarchie des arts que les artistes modernes mettent à bas.
Ça, c'est peut-être l'influence aussi des Anglais sur l'importance du décor.
L'importance du décor, de la multiplicité aussi des pratiques artistiques. Nous avons maintenant des artistes aussi, comme Gauguin, je le mentionnais à l'instant, qui d'un certain point de vue annoncent le caractère complètement démiurgique d'un Picasso, c'est-à-dire touchant à toutes les techniques et ne abolissant absolument toute hiérarchie et toute frontière entre les arts. Donc il y a un grand appel et c'est quand même quelque chose qui revient, qui hante, alors aussi bien j'allais dire la face officielle de la peinture que celle des avant-gardes. Les Nabis se sont énormément posé la question du décor et du retour au mur, qui était vu comme un geste de retour à la base de l'histoire de la peinture occidentale, c'est-à-dire regarder le Trecento, le Quattrocento.
Les Nabis, c'est essentiellement Vuillard, Bonnard, Maurice Denis
qui ont beaucoup pratiqué ces questions.
Aussi, Bruno Maton.
Il faut aussi se rappeler quand même, pour lui rendre hommage, que l'origine de toute cette histoire vers de nouveau les arts décoratifs, c'est-à-dire l'art mural principalement pour les peintres, c'est Puvis de Chavannes.
Bien sûr.
C'est lui
Puvis
qui a lancé
Puvis
ça.
Puvis est une des grandes admirations de cette génération, une admiration qui aujourd'hui est peut-être mal comprise par le grand public, mais c'est l'homme qui réinvente la possibilité de la peinture à la fresque, alors que ce n'est pas de la peinture à la fresque ce qu'il fait, mais peu importe, c'est orner les murs, couvrir les murs d'images.
Mais alors, puisque vous parlez des Nabis, on a dans le substrat Nabis, on a le symbolisme, n'est-ce pas, qui est très important, et on est avec les symbolistes dans une sorte d'émanation sonore généralisée, une sorte de synesthésie qui n'est pas si éloignée du monde de Monet à cette période-là.
Je pense qu'il y a des points de passage, à mon avis, absolument direct des années 1890 au fond au projet de Monet qui a son petit héritage symboliste incontestablement.
Rappelons que Mallarmé meurt en 1898, donc on est Redon est là en pleine activité.
C'est aussi, je pense, comme vous le disiez, Monet réagit aussi face à cette question existentielle qui taraude absolument tous les grands créateurs de l'époque. Il réagit aussi avec sa culture, avec l'homme du 19e siècle qu'il ne cesse pas d'être, au fond. À l'évidence, cette culture littéraire, poétique des années 90 l'accompagne pour les nymphéas.
Alors écoutons justement quelques mots de Claude Monet à propos des nymphéas.
Un moment, la tentation m'est venue d'employer à la décoration d'un salon ce thème des nymphéas. Transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage. Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer deux panneaux décoratifs que je veux signer le jour de la victoire et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. Je désire que ces panneaux soient placés au musée des arts décoratifs et serais heureux qu'ils soient choisis par vous. Je vous admire et vous embrasse de tout mon cœur. Claude Monet.
Alors, Nous écoutions la lettre de Claude Monet à Clémenceau, celle qu'il lui adresse en novembre 18, donc depuis Giverny. Et Bruno Maton, quand il écrit cette lettre, il est également en train de peindre. Alors ma question, c'est la suivante. Lorsque il peint, il y a ces énormes monochromes outre-mer ou prusses, et par-dessus une sorte d'écriture, justement. Et c'est comme s'il revenait et qu'il faisait des accents. C'est quoi la technique de Monet, selon vous ?
De toute manière, dès le début, la peinture de Monet se veut une peinture de touche. Il ne faut pas l'oublier, du coup de pinceau. Bon. Et il y a toute une histoire, on pourrait faire toute une histoire du coup de pinceau dans tout au long de la vie de peintre de Monet. Et dans les Nymphéas, qui est une des dernières œuvres, le pinceau file à la manière, je dirais, de certains peintres chinois et japonais, c'est-à-dire la peinture à l'encre, qu'on appelle au Japon sumiye. On a un pinceau qui est rempli d'encre et on peut faire un trait d'un seul coup qui peut avoir un mètre. C'est ça qui intéressait Monet dans la peinture japonaise.
Qu'il a découvert à l'exposition chez Paul Durand-Ruel dans les années 90. Oui,
voilà, oui, certainement. Mais de toute manière, avec Bing...
Oui, c'était une source qui est une source découverte de ces artistes d'avant-garde à partir des années 1860-70. On commence à s'intéresser beaucoup à cette forme de peinture.
En plus, cet univers qui n'a que deux dimensions.
Bien sûr.
Et qui représente l'espace réel.
C'est-à-dire que vous voulez dire par là que c'est la fin d'un espace géométrique au sens de la Renaissance.
Ah oui, tout à fait.
Donc
pour les Nymphéas, il liquide la perspective. Hein.
C'est au évident. Sens strict.
Oui, oui, oui.
C'est terminé.
Je comprends. Laurence Descartes, sur cet aspect japonais, ça, c'est important, effectivement.
C'est très important parce que, effectivement, c'est une des sources de ces révolutions visuelles des avant-gardes de la fin du 19e siècle et cette remise en cause, effectivement, d'une représentation en perspective, comme vous disiez, illusionniste aussi. C'est-à-dire que c'est une affaire qui préoccupe d'ailleurs autant Manet que Monet dans les années 60-70, et qui est d'abord la question de la sensation propre de l'artiste face au motif, face au sujet qu'il choisit. Et ça, il est évident que l'art japonais, ou ce qu'ils en connaissaient, bien entendu, qui était sans doute assez limité, en tout cas au tout début, a été un des points d'entrée de cette libération, de cette capacité à dire « ce mimétisme ne nous intéresse plus ». Au fond, c'est la sensation intérieure qui nous intéresse. C'est notre propre sensation face à la réalité.
Et l'écriture de ce coup de pinceau dont parlait Bruno Maton, c'est quand même un coup de pinceau qui vient par-dessus une surface presque homogène. Hein. On est sur des fonds monochromes sur lesquels le coup de pinceau vient. C'est très spontané, c'est très gestuel.
Je pense, oui. Il me semble. Je le ressens en tout cas comme très gestuel de sa part, mais toujours inspiré par un motif, c'est-à-dire ça peut être les branches du sol qui tombent sur l'eau, ça peut être le mouvement de l'eau, ça peut être les linéaments du tronc du sol, par exemple, mais il y a toujours ce geste-là.
Mais c'est... qui vient en épaisseur, hein, parce que
touche, en empattement, oui.
Ocre, c'est une touche ouverte, etc. Oui. Elle a une épaisseur qui parfois donne la sensation de faire un demi-centimètre.
Bien sûr, oui. Ça, c'est l'héritage de Courbet, hein,
cette présence, cette matière, cette matérialité, si vous voulez, affirmée, assumée de la peinture, c'est-à-dire une peinture qui ne se travestisse pas selon les principes académiques d'une image lisse, porcelainée. Ça vient très directement, comme vous le disiez à l'instant, de Courbet. Et ça va être pris par toute la génération impressionniste et de la peinture moderne.
Le modèle qu'il a inventé. Je voulais dire justement que sur cette relation entre le jardin et l'œuvre, il y a dans la disposition un phénomène un peu semblable. Je ne sais pas si nos auditeurs peuvent imaginer que ce jardin est à côté d'un espace géométrique, qui est l'espace des fleurs, n'est-ce pas, qui sont des tapis de fleurs géométriques, et qu'ensuite il faut emprunter un chemin de terre pour arriver comme si on était préparé à l'apparition, en fait. Hein. Et justement, c'est exactement le
pronaos, si je puis dire, de l'orangerie. C'est-à-dire qu'on a comme ça une espace de transition qui vous amène dans le cycle de l'orangerie, qui a été voulu par Monet, vide de tout. toute œuvre. Voilà.
Donc, une sorte de préparation psychique.
Une espèce d'espace intermédiaire entre la ville aussi et le centre de Paris, puisque la Monnaie savait que c'était le dispositif était définitif pour l'orangerie et qui vous fait rentrer dans cet espace.
Est-ce que ça vous paraît, on en parlait tout à l'heure, qu'on est juste après la guerre, Monnaie et Clémenceau sont d'accord pour immédiatement en faire une œuvre majeure de ce moment de réconfort, de victoire, etc. Est-ce une œuvre de paix ?
Pour Monet, oui, c'est incontestablement une œuvre de paix. C'est une œuvre, et son geste est lié, je pense aussi à l'immense, malgré tout, soulagement de sa propre angoisse face à la guerre. Parce que ce qu'on oublie aussi peut-être de dire, c'est que cet extraordinaire espace, il naît de plusieurs angoisses. Il naît de l'angoisse de l'artiste vieillissant, de la peur de perdre la vue, hein. Pendant toutes ces années, et ça c'est aussi assez magnifique, il faut penser que toutes les années de gestation des Nymphéas, Monet a des épouvantables problèmes de cataracte, ne veut pas se faire opérer, enfin bon, c'est un drame permanent, et l'angoisse de la guerre, c'est-à-dire il le dit, je ne peux faire que ça, c'est ma manière à moi de lutter contre le chaos du monde au fond, donc c'est vraiment c'est aussi une œuvre de son temps, c'est une œuvre historique aussi paradoxalement.
Oui, vous avez raison. Il s'est fait opérer de la cataracte en 18, je crois.
Grâce à Clémenceau, qui a insisté.
Sinon, il ne l'aurait pas fait.
Le nom du docteur m'aurait inquiété, il s'appelait Coutelas. Bruno Maton, vous ne pensez pas que c'est un drame cosmique, plutôt, que l'on voit, plutôt qu'une œuvre de paix ?
Non, cosmique, non, c'est pas ça. C'est le drame de l'homme, du rapport de l'homme à la nature. Et ceci par la vue, c'est-à-dire lui, il est peintre, donc c'est l'homme de la vue. Mais c'est le rapport avec la nature dont il parle. Et c'est bien le problème de tout notre 20e siècle qui se pose là. Hein, l'œuvre a été terminée en 24, je crois, juste avant la mort de Monet. Et elle est, je crois, un des manifestes de la grande problématique du siècle qui commence maintenant. C'est-à-dire le rapport avec la nature. Qu'est-ce qu'on fait avec la nature ?
C'est vrai que c'est une question d'aujourd'hui.
C'est une question d'aujourd'hui, c'est pour ça que cette œuvre est d'une actualité. Pour moi, extraordinaire aussi. Et peu à peu, je pense, on va la redécouvrir. Et on se rendra compte à quel point, jusqu'où est allée Monet dans l'expression de la relation avec la nature et en quoi, si on perd le contact profond avec la nature, l'humanité est perdue. Oui. C'est une leçon de philosophie. Je dirais pas cosmique, parce que je vois pas ce qu'il y a de cosmique.
Non, écologique en tout cas.
Oui, en tout cas, ça c'est certain.
Oui.
Ça c'est certain.
Dans l'attitude de Monet face à la mort, il y a aussi le souvenir extraordinaire de son attitude de peintre face au cadavre de sa première femme. Je pense souvent à ça. Comme
qui est un des tableaux les plus troublants de l'histoire de la peinture.
Oui, oui. Oui. Pouvez-vous en dire un mot, Laurence, le décrire peut-être une...
C'est un tableau incroyable parce que précisément, l'homme de la sensation instantanée s'est préoccupé d'attraper quelque chose de la dernière image de sa compagne. Et la rencontre d'une tradition, par ailleurs, parce que le portrait mortuaire a sa tradition dans l'histoire de la sculpture, de la peinture, et précisément de la révolution impressionniste, en fait un tableau extrêmement troublant. Et puis parce que Monet n'est pas un peintre de portrait, fondamentalement. Ça n'est pas ça qui l'intéressait. Il est un peintre qui se pose la question de l'homme dans la nature de façon permanente, mais qui s'est peu préoccupé, sinon au tout début de sa carrière, de l'individualité, en quelque sorte, la singularité.
Et là, d'ailleurs, je me demande si c'est le sujet, parce que je pense à ce tableau pour une raison qui correspond à cette question de la nature, qui est celle de la mutation, n'est-ce pas ? Son épouse est morte et il saisit les derniers événements de la lumière et de la carnation alors qu'elle est sur son lit de mort, les évolutions des couleurs, et avec une violence terrible. Par moments, on voit qu'avec le bout du manche du pinceau, il a rayé l'image. Et on est dans ce monde de la mutation, parce que il y avait dans la peinture des Nymphéas un cycle traditionnel qu'il suivait. C'est-à-dire qu'il y avait des heures pour peindre et des heures pour au moment où les nénuphars se fermaient, où il arrêtait, il recevait, il recommençait. Cette sorte de cycle, c'est ça, pour ça que je parlais d'un drame cosmique. Ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est un cycle cosmique, non ? C'est important.
La notion de cycle est importante, oui, puisqu'on parlait du cycle du jour, des saisons. Oui, ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais alors, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que les Nymphéas sont une œuvre d'atelier. aussi.
Vous voulez dire que, contrairement à ce que l'on pense, voilà, c'est pas entièrement fait dehors.
Et c'est pas du tout entièrement fait dehors, puisque Monet fait en construire en 1915 à Giverny un grand atelier pour précisément travailler à ces grandes décorations. Et c'est la première fois, d'un certain point de vue, qu'il travaille en atelier véritablement. Alors, il vérifie constamment, à l'évidence, le motif dans le jardin. Mais c'est un peu comme Cézanne avec l'atelier des Loeves, c'est-à-dire pour les grandes baigneuses. L'atelier construit pour les grandes baigneuses. On vérifie constamment le motif sur nature, si je puis dire, et en même temps, c'est un travail de recomposition et d'atelier. Et ça, je trouve aussi que c'est une extraordinaire synthèse de enfin bon.
Et cet atelier vide au début, dans lequel il y avait l'ensemble de ces nymphéas, mais même plus de toiles d'ailleurs que celles qui sont pour l'instant à l'orangerie, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont parties ici et là. C'était au fond le premier grand atelier de la peinture moderne, non?
Oui, peut-être.
Ça ressemble à un atelier d'artistes américains années 50. D'artistes
ça fait très, terriblement très moderne, penser à ça, effectivement, quand on regarde les photos. Oui, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans un atelier 19e, si je puis dire. On est vraiment dans un atelier d'artistes du XXe siècle.
Mais c'était une nécessité, sans doute.
Bien sûr. Et je
vois rien de plus. Voilà. Mais il a créé un espace un espace 19e.
Absolument.
C'est ça qui est très intéressant. Pour revenir un peu une seconde sur le tableau de Camille, il a fait un très beau portrait avec la robe verte de Camille quand elle était vivante. Et puis, il s'est beaucoup reproché d'avoir fait ce tableau, d'ailleurs. Mmh. Il dit, comment ai-je pu peindre ma femme morte? Enfin, c'est pas possible. Oui, Qu'est-ce qui m'est passé par la
très
tête?
Torturé,
c'est tout à fait curieux, ça. Oui. Mmh. Et le tableau est vu à travers une sorte de gaz qui devait protéger le cadavre des insectes ou je sais pas quoi. Et c'est un visage vibrant qui disparaît. C'est ça qui est tellement beau dans ce tableau.
Face,
il a eu raison de le faire, quand même. Parce que la mort est comme non pas un corps vivant qui devient un objet mort, mais comme une disparition dans la peinture. Et ça, je trouve ça sublime, quoi. Oui, surtout qu'il avait beaucoup aimé cette femme.
Bien sûr.
Il avait vécu toutes ces années de pauvreté et de misère avec elle.
Merci Bruno Matteau. Peut-être cherchait-il, ainsi que s'intitule votre dernier catalogue, à toucher l'ombre. C'est quelque chose comme cela.
Oui, hein, peut-être bien, oui. Oui,
Bruno Matteau, vous préparez une exposition, un livre, où en êtes-vous?
Et normalement, à l'automne, j'ai un petit roman qui va sortir dans une petite maison d'édition très sympathique, qui font de très jolis livres.
Qui s'appelle
Et puis encore.
Et puis encore, très joli.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé ensemble l'extraordinaire ensemble des nymphéas, ce décor mural réalisé par Claude Monet entre 1914 et 1926 et que vous pouvez admirer au musée de l'Orangerie. On a observé cette œuvre avec le regard que lui a voué son ami Georges Clemenceau, homme politique merveilleux, grand vainqueur, grand général de guerre. Je vous signale d'ailleurs le très beau catalogue de l'exposition que le musée Guimet a consacré récemment à Clemenceau, intitulé « Clemenceau, le tigre de l'Asie », parce que c'était aussi un grand collectionneur et passionné d'art asiatique. Derrière l'émission, vous avez pu entendre des musiques de Kajia Saariao, nymphéa. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Brigitte Masson. Lecture des textes, Lara Brulle. À la technique, Stéphane Touvenin. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et de l'indispensable Sandra Adam.
Oh, to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go with me.